Bonjour à tous. Et bonjour à vous Antoine Mercier.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table puisqu'il est midi sur France Culture. Vous nous donnez quelques titres du journal de 12h30.
Et d'abord cette enquête planétaire réalisée par une centaine de journaux sur des millions de documents qui révèlent des avoirs dans les paradis fiscaux de 140 responsables politiques ou personnalités de premier plan, documents regroupés sous la dénomination Panama Papers. François Hollande assure que les révélations sur le scandale d'évasion fiscale va donner lieu en France, en tout cas à des enquêtes fiscales et à des procédures judiciaires. On fera le point tout à l'heure avec Anne-Laure Chouin notamment. L'accord entre les Européens et la Turquie sur les migrants commence à se mettre en place, à être appliqué. Il y a un premier ferry chargé de migrants clandestins qui a été renvoyé de Grèce, qui est arrivé ce matin dans le port turc de Dikili, parti de l'île grecque de Lesbos. Un catamaran donc accosté avec des dizaines de passagers à bord. Et puis par ailleurs, il y a un premier groupe de 16 Syriens qui ont atterri à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, en provenance d'Istanbul et toujours dans le cadre donc de cet accord dont nous parlera sur place Marie-Pierre Vérou. Un projet de loi travail qui va être examiné à partir de cette semaine par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, assure rester attentive à toutes les interpellations et notamment aux exaspérations qui s'expriment depuis 4 jours maintenant dans des rassemblements nocturnes place de la République à Paris dont nous parlera dans le journal Émilie Chaudet, l'invité de la séquence interview, Bernard Debré, député Les Républicains de Paris. Voilà pour les titres du journal. C'est à vous, Caroline, la Grande Table.
La Grande Table avec deux très belles parties aujourd'hui, en compagnie de deux invités qui vont se succéder à ce micro. Deux invités dont les noms se passent presque de commentaires. Robert Badinter nous rejoindra après le journal. On lui demandera ce qu'on peut faire dans notre société des terroristes. Et pour commencer, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'auteur de livres aussi marquants que La Place, La Honte, La femme gelée, Passion simple, L'événement, L'occupation ou encore Les années, Annie Ernaux. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à la Grande Table.
C'était un été sans particularité météorologique, celui du retour du général de Gaulle, du Franc-Lourd et d'une Nouvelle République, de Pelé, champion du monde de foot, de Charlie Gaulle, vainqueur du Tour de France, et de la chanson de Dalida, « Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour ». Un été immense, comme ils le sont tous jusqu'à 25 ans, avant de se raccourcir en petits étés de plus en plus rapides, dont la mémoire brouille l'ordre, ne laissant subsister que les étés spectaculaires de sécheresse et de canicule. L'été 1958.
Annie Ernaux, vous écrivez, vous signez « Mémoire de fille ». Aujourd'hui, un récit dans lequel vous racontez cet été de bascule, l'été de l'année 1958, l'année de vos 18 ans, et vous racontez les deux ans qui ont suivi, deux années que vous jugez comme deux années d'abîme. Dans une note d'intention que vous avez retrouvée, vous dites que vous vouliez explorer le gouffre entre l'effarante réalité de ce qui arrive au moment où ça arrive, et l'étrange irréalité que revêt des années après ce qui est arrivé.
Oui, c'est vrai que c'est un abîme, c'est assez effrayant. La réalité que cet été-là a eu au moment où je le vivais, et également dans les deux étés, enfin dans les deux années qui ont suivi, et depuis 50 ans, bien entendu, cet éloignement et au moment où j'écris, de se dire, voilà, ça a existé, mais ça n'a plus du tout la même réalité. Et donc, c'est écrire dans ce gouffre-là, l'explorer en même temps. C'est ça. C'est pas raconter une histoire, finalement. C'est pas raconter une histoire. L'histoire, elle sera très simple, hein, elle est très simple. Et c'est simplement bon la première fois qu'on est avec un homme et nu, pour dire les choses simplement, Et ensuite, voilà, ce que tout cela entraîne, qui paraît immense, mais c'est très difficile de dire parce qu'il y a plein de choses dedans. Il y a le sexe, bien sûr, mais il y a aussi j'avais une autre note d'intention qui était, voilà, dire c'était le sexe, les autres et le monde finalement. Voilà, une impression que c'était quelque chose de tellement noué que pour l'écrire, c'était ça la grande difficulté. Et c'est pourquoi j'ai mis tant de temps
oui,
à l'écrire.
Parce que c'est vrai que vous dites aussi que depuis 20 ans, vous notez 58 dans vos projets de livres et vous dites que c'est toujours le texte manquant, le trou inqualifiable. Alors on peut se demander si c'est parce que vous n'aviez pas envie de retrouver la mémoire, qui est une mémoire douloureuse, de cette fille de 18 ans que vous avez été, Annie Ernaux, ou si c'est parce que c'était effectivement très difficile à écrire. Parce que vous faites la distinction entre le souvenir et la mémoire. Oui. Ce souvenir, c'est se placer aujourd'hui et vivre avec ses souvenirs de ce que vous aviez été, ce que cette fille avait été. Mais la mémoire de cette fille, c'est revivre, en fait, presque.
Oui, c'est... je fais une grande distinction. La mémoire, les souvenirs, je les ai notés. Il y a 15 ans, je les ai notés très... en vrac. Et là, ce sont effectivement, ce sont des images. Mais ça ne dit rien. Ça ne dit rien de la fille qui a vécu cela. C'est là la différence. Ça ne dit rien. Et pour, justement, il fallait atteindre, pour vraiment atteindre la réalité, c'était savoir qui était cette fille. Essayer de la rejoindre par l'écriture.
Comment expliquez-vous, Annie Ernaux, que vous aviez mis tant de temps à trouver ce que vous appelez la douleur de la forme et que vous avez réussi à le faire, de fait, aujourd'hui?
Je crois que on fuit toujours d'une certains livres. Il faut vraiment se dire qu'il faut le faire. C'est une question de volonté aussi. C'est une question de volonté. Et j'en étais arrivée, bien sûr, à me dire que peut-être je pourrais mourir sans l'avoir écrit. Et cette perspective-là, c'était une défaite. C'était une défaite. Alors, je ne dis pas si c'est une défaite de vie ou une défaite d'écriture, les deux se mélangeant beaucoup pour moi, et qu'il fallait donc que je me cramponne. Et c'était après avoir écrit Les années, c'est à ce texte que je me suis vouée, dirais-je. Voilà. Et que j'ai mis beaucoup de temps parce que cette forme-là, effectivement, elle sera différente de mes livres. Elle sera une dissociation entre elle, la fille de 58, ensuite la fille d'Angleterre, etc.
Oui, il y a plusieurs filles.
Mais voilà, il y a plusieurs filles, en fait. Et celle qui écrit, la femme d'aujourd'hui. Voilà. Et donc,
qui dit je dans le texte.
Qui dit je, qui dit toujours je. Et c'était ça. Quand j'ai commencé comme ça, avec en disant elle, alors ça a tout de suite fonctionné.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme ton autre, qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'enlace.
Annie Ernaux, c'est aussi un livre, et on l'a entendu dans la courte lecture que vous nous avez offerte, que c'est un livre qui est accompagné, comme toujours d'ailleurs dans vos récits, de textes, de chansons, de photos, de faits de l'époque, qui disent une époque. Cette époque-là, cette époque des années 1950-1960, disent aussi dans votre livre Mémoire de fille, ce que vit une fille de l'époque. En l'occurrence, c'est moins ce que chante Dalida, l'histoire d'un amour, même s'il est question d'amour, que l'histoire d'une honte. Et on sait que dans votre œuvre, la honte occupe une grande place. Mais là, ça n'est pas la honte sociale, j'ai envie de dire, celle que vous avez ressentie pour vos parents, pour votre milieu social que vous avez quitté, vos parents tenant un café-épicerie à Yvetot, en Normandie. C'est moins cette honte sociale qu'une honte qui touche à un corps, celui du corps d'une fille et à sa féminité, à son intimité.
Oui, le premier réflexe, si on peut dire, le premier sentiment, le ressenti, ça n'est pas la honte. Hein. Dans cet été-là, il y a une forme d'affirmation de la légitimité du désir du corps. Mais
oui, la honte ne vient pas tout de suite. La honte vient plus tard, parce que
beaucoup plus tard.
Il faut peut-être dire les faits. Ce qui se passe, puisque ça tient effectivement un peu de mots, Annie Arnaud, cette fille de 58.
Oui.
Par monitrice
dans une colonie de vacances, et c'est la première fois qu'elle se trouve dans un milieu mixte, laïque, hein, puisqu'elle vient d'une boîte religieuse, et que très très vite, et ben, elle se retrouve dans un lit avec le moniteur chef, et que ça se passe pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, en plus, elle est larguée. Voilà. Il la rejette. Bien. Il la rejette et elle va se consoler, c'est le terme. Hein. Elle se console si on parlait comme Dalida, dans d'autres bras. Et c'est là, effectivement, qu'elle va être l'objet de l'Asie,
De mépris.
Mépris, de réflexion.
Elle est traitée de putain, pour le dire clairement, par les autres.
Oui, putain sur les bords. Hein. Voilà, c'est l'expression de l'époque, sur les bords. Mais elle n'a pas honte à ce moment-là. Elle n'a pas honte. Mais alors, justement, c'est toute la difficulté, c'est de faire comprendre qu'en ces années, fin des années 50, mais grosso modo, jusqu'au milieu des années 60 et 68, les filles ne peuvent pas être libres d'une certaine manière. Elles ne peuvent pas assumer leur propre désir. D'abord parce qu'il y a tout de même, on est dans une époque où on peut très bien tomber enceinte sans recours. Hein. Donc il y a ça qui pèse sur les filles et qui fait que tous les préceptes et tous les conseils sont mus au fond par cette impossibilité donc de contraception d'abord et d'avortement. Mais c'est ce qu'elle la honte lui viendra en fait plus tard lorsque elle sera en philo, en classe de philo, et qu'elle découvrira aussi Simone de Beauvoir. Voilà.
Eh bien, ça n'est pas de ma faute si en France en particulier, dès qu'on parle de femme, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe. Par ailleurs, il est bien évident qu'on ne peut parler d'aucune catégorie humaine sans examiner les problèmes sexuels, mais je ferai remarquer aussi que si on regarde ces 1000 pages, il n'y en a relativement qu'un petit nombre qui sont consacrés précisément aux questions de la sexualité. Ce sont naturellement ces pages-là dont on s'est le plus occupé et qu'on a le plus lu et peut-être qui amuse le plus les gens, mais il y en a une très grande quantité d'autres qui sont consacrés à tous les problèmes du travail, du ménage, du cœur, des sentiments,
même de la maternité,
de l'intellectualité également de la femme, etc., etc. Enfin, et vraiment, ça n'est pas du tout une spécialisation.
C'est pas que la question sexuelle.
Simone de Beauvoir, un archive INA de 1949, au moment où elle publie Le deuxième sexe, que vous découvrez donc dix ans plus tard, Annie Arnaud, et qui fait l'effet d'une petite révélation, on peut le dire pour vous.
Une grande révélation, dirais-je. Ah oui, une grande révélation, parce que j'ignorais tout de Simone de Beauvoir. J'avais étudié l'existentialisme en classe de terminale, mais c'était une révélation parce que j'ai eu l'impression que d'un seul coup s'éclairait vraiment le comportement le comportement des hommes, des garçons, hein, pour dire plus vite, des garçons à la colonie.
Du premier et des
du
suivants.
Du premier et des suivants.
À qui vous avez systématiquement dit que vous étiez vierge et, à vrai dire, peu leur importait. Ils se comportaient de la même façon,
de la même manière, oui, de la même manière. Mais également, des autres filles. Des autres filles qui étaient du côté. Effectivement, des garçons, on ne se conduit pas de cette façon-là. Lire Simone de Beauvoir, d'un seul coup, c'était de voir à quel point, effectivement, les hommes... Nous n'étions pas libres, nous étions soumises d'abord à un corps qui vraiment nous empêchait aussi de profiter de la vie, mais c'était effectivement ça. Et c'était que la femme était objet la plupart du temps. Et dans le mariage, elle décrivait le mariage, décrivait la défloration d'une manière absolument saisissante, bien sûr. Mais ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était justement qu'elle montrait tous les mythes autour. D'abord l'histoire de l'assujettissement des femmes, mais également tous les mythes qui étaient autour des femmes.
Qu'est-ce que ça a changé, du coup, pour vous, Annie Ernaux, à ce moment-là ?
Alors, à ce moment-là, le changement, ça a été, je crois, disons, radical. Ça a été, je ne veux plus du tout avoir de relations sentimentales, sexuelles, avec un homme. C'était cela. Et c'était, ou alors... que ce soit une sorte de compagnonnage, c'est devenu un petit peu l'idéal. L'idéal est devenu un petit peu le couple Sartre-Beauvoir, hein, voilà. Mais c'était aussi l'idéal de faire ma vie autre chose. Évidemment que j'étais autre chose qu'un corps. J'avais une vie à construire, une vie à des choix à faire, dont celui du métier. Et c'est là que je me suis effectivement orientée vers le choix d'un métier qui concernerait autrui. J'étais vraiment dans cette idée-là de faire quelque chose dans le monde pour les autres. Et malheureusement, j'ai pas très bien choisi. J'ai choisi d'être institutrice, métier pour lequel je n'avais strictement aucune vocation.
Mais qui est quand même un métier pour les autres.
Ah oui.
Et puis ensuite, vous êtes partie en Angleterre et vous dites que c'est là que vous avez commencé à faire de vous-même un être littéraire, quelqu'un qui vit les choses comme si elles devaient être écrites un jour.
Oui, c'est ce que je me semble.
Là, c'est la fille de Londres, là, tout d'un
oui,
coup, qui parle.
Oui, la fille de Londres, cette fois, la fille qui est au père et qui lit énormément. Et c'est là que je me suis mise à lire vraiment mes contemporains. Mais en français, bien sûr. Il y avait une bibliothèque avec un rayon de livres français et j'ai lu beaucoup. Et je pense que la lecture, également le vide de cette existence en Angleterre pendant 6 mois, c'était vraiment ce qu'il y a de plus vide au possible. Et ça a été le déclenchement d'une forme d'existence où... j'ai commencé à penser aussi comme un pays lointain, un peu mon enfance, et de voir le monde de mon enfance au fond comme si je pouvais le décrire ou l'écrire.
Et la dissociation commençait.
Oui, une forme de oui absolument. Et c'est vraiment en Angleterre que j'ai commencé d'écrire.
Cette dissociation, elle est fondamentale parce qu'elle se retrouve, Annie Ernaux, dans vos textes précisément, et on va y revenir. Mais vous disiez un mot tout à l'heure du corps. Le corps des femmes ne leur appartient pas. Le corps des filles appartient au corps social. Il se trouve que c'est justement dans votre corps à vous que s'est inscrite cette période que vous appelez la période de glaciation. Mmh. Dans votre corps, puisque vous avez commencé à manger, c'est-à-dire à faire de la boulimie, oui. Et que les règles ont disparu. Et je voudrais insister sur quelque chose qui donne vraiment aussi toute la force de votre texte. Ça aurait pu s'appeler La fille de 58. Ça s'appelle Mémoire de fille au singulier, parce qu'effectivement, dans ce mémoire de fille, vous allez beaucoup plus loin, vous engagez avec elle. Toutes les filles, ça fait du monde quand même. Toutes les filles ont pu ressentir d'une façon ou d'une autre dans leur corps ce que vous avez ressenti très fortement à votre façon.
Oui, je me souviens d'avoir aussi, dans mes notes d'intention, toujours... vous savez, quand un livre est fait, on ne sait plus ce qu'on a fait. Mais il y a des traces avant de ce qui a été fait. Et c'était très, très précisément exemplarifier quelque chose des filles. Voilà. Donc, quelque chose qui concerne...
Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas lire, bien au contraire.
Non, et parce que, justement, en miroir, ils sont obligés de se lire aussi, d'une certaine manière. Et j'ai déjà donc des réactions en ce sens. Voilà, parce que eux aussi, sur eux aussi pèsent d'une autre façon des impératifs de conduite, de se conduire justement en mec, et justement eux, de perdre leur virginité le plus vite possible. On parle même pas de virginité pour les hommes. Bon, voilà. Donc, oui, il y avait effectivement tout ce qui concerne voilà, être une fille au fond, et à un moment de la vie, ce moment-là, juste là, après l'adolescence, et d'être, de vivre toutes ces expériences-là. Et c'est sûr que j'ai vécu dans mon, vraiment, j'ai incorporé littéralement.
Dans votre chair.
Oui, oui, cet été-là.
D'où
oui.
La nécessité d'une dissociation ensuite presque d'avec votre corps pour pouvoir écrire sur
peut-être.
Ce qu'était cette fille-là. La fille de 58 d'abord, la fille de Londres ensuite.
Venu dans ma chambre, il a rangé la souricière, il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris entre mes bras blancs, il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby. Siffle pas sur les quais endormis. Quand je tiendrai la main de mon chéri. Un chinois est sorti de l'ombre.
Germaine Montero qui interprète La fille de Londres.
Qui est de Pierre Marc-Orland.
Qui est de Pierre Marc-Orland, tout à fait, Annie Ernaux, et qui est dans votre oui. Mémoire de fille, qui aurait pu plutôt prendre un S à fille, un S à mémoire, qui aurait pu s'intituler La fille de 1960 aussi, puisque vous avancez entre oui. 1958 et 1960, mais qui donc prend toute cette dimension universelle grâce à cette singularité. Vous écrivez, Annie Ernaux, puisque j'aimerais qu'on s'arrête sur cette dissociation entre les deux filles, celle de 58 et celle d'aujourd'hui, la femme de 2015. Vous écrivez « Je ne construis pas un personnage de fiction, je déconstruis la fille que j'ai été ». Sur cette déconstruction, qui est un autre mot que dissociation, comment procédez-vous ?
Ah, c'est tout simplement... C'est de ne pas vouloir raconter une histoire. C'est pas un récit.
Oui, c'est ce que vous dites tout à l'heure. Il y a l'histoire de la fille de 58 et oui. Il y a l'écriture.
Oui, il y a l'écriture. Et c'est justement d'essayer de voir ce qu'elle était en arrivant, par exemple, en arrivant à la colonie. Qui est cette fille? Quelles sont ses attentes? Et c'est de la suivre ensuite, pas à pas, sans jamais imaginer la suite. C'est une sorte d'immersion dans l'écriture, immersion, mais sans avenir. C'est juste se placer ce que j'ai appelé le présent antérieur, finalement. C'est-à-dire ce présent de la vie perdu, qui n'existe plus, mais qui va devenir ce présent de l'écriture et qui va avancer. Je vais image par image, un peu comme un film.
Oui, d'ailleurs, les images sont très importantes. Les
oui.
Photos vous servent beaucoup.
Les photos
du
sont
coup.
Des repères, oui. Mais où justement, il n'y a pas... Ça n'éclaire pas les photos.
Non, et puis ça fige
ça
une
fige
photo.
Dans...
Ça peut figer la mémoire.
Oui. Ça fige la mémoire. Donc, ce sont plutôt des repères du corps en particulier. Sont des repères du corps. À un moment, justement, où cette fille est grosse, apparaît très, très... Ta vieille aussi, parce que dans sa tête, elle est vieille. C'est une chose terrible, ça.
Annie Arnaud, ça donne une écriture qui est très particulière. Ce travail que vous faites de chercher la mémoire que fut cette fille de 18-20 ans. Cette écriture, on la retrouve de toute façon dans votre œuvre. Elle a été à un moment qualifiée de blanche, certains pour la dénigrer, d'autres pour s'en revendiquer. Vous avez d'ailleurs fait des petits. Par exemple, quelqu'un, je crois, dont vous admirez le travail, qui est le jeune Édouard Louis. Mm-hmm. Édouard Louis était l'invité de Laure Adler dans Hors Champ en 2014. Oui. Il parlait de vous, écoutez-le.
Pour moi, l'écriture blanche, c'est une drôle d'idée. Je trouve même étrange que Annie Ernaux reprenne ce concept pour elle-même. Elle dit « je fais une écriture comme quand j'écrivais des lettres à ma mère, non construites, qui seraient en dessous de la littérature, etc. » Or, moi, je pense que les livres d'Annie Ernaux sont plus construits que n'importe quel livre, que la plupart des livres, en tout cas, qui sont publiés ces dernières années. Et simplement, ce qu'il y a de révolutionnaire chez Annie Ernaux, ce qui fait que ces livres sont aussi magnifiques, aussi beaux, aussi puissants, c'est qu'elle donne une nouvelle définition de ce que construire un texte littéraire voudrait dire. Et c'est pas qu'elle construit pas, c'est qu'elle défait l'image classique de la construction.
Annie Arnaud.
Comme j'aime ce que fait Édouard Louis, je suis très sensible à ce qu'il dit.
La déconstruction, ce serait effectivement le meilleur mot qui peut qualifier ce que vous faites comme travail littéraire.
Vous savez, je me méfie beaucoup des termes comme ça qui disent ce qu'est la littérature ou même ce que je ferais. Très souvent, j'ai varié au fil du temps sur la définition, parce que si je savais ce qu'est écrire, ce serait peut-être je sais pas, mais je crois que personne ne sait réellement et ce qui se passe au moment où on écrit. Mais je savais quand même, je sais bien que ce qui comptait pour moi, ça n'était pas l'histoire qui est au fond d'une énorme banalité finalement, que c'était autre chose. Et c'est cette chose-là qui concerne le corps, qui concerne les filles. Tout cela qui était important à trouver par l'écriture.
Oui, mais et pas seulement, je reviens à cette première phrase que j'ai lue tout à l'heure, qui est en fait à la fin de Mémoire de fille, explorer le gouffre entre l'effarante réalité de ce qui arrive au moment où ça arrive et l'étrange irréalité que revêt des années après ce qui est arrivé. Ça, c'est un projet magnifique que vous avez parfaitement réussi dans ce livre-là, Annie Arnaud.
Je crois que c'est effectivement la phrase qui définit ma démarche dans ce texte, cette exploration.
Maintenant que vous avez réussi à écrire cette histoire, puisque c'était difficile pour vous, ou plutôt cette mémoire, disons, de cette histoire, est-ce que vous le vivez comme une délivrance? Est-ce que vous le vivez comme un arrêt possible de l'écriture?
Pas du tout un arrêt, mais maintenant j'ai le sentiment, c'est très simple, c'est le sentiment du devoir accompli. Je l'ai fait, je l'ai fait, et j'ai longtemps pensé que je le ferais pas, que je l'écrirais pas. Donc d'y être arrivé, c'est ce sentiment d'un accomplissement.
Eh bien, merci de l'avoir fait. On va se quitter sur une chanson encore que vous mettez en exergue de Mémoire de fille, Annie Arnaud. I know it sounds absurd, but please tell me who I am. Ceux qui connaissent cette chanson auront reconnu Logical Song, Supertramp. Thank you. Merci beaucoup Annie Ernaux.
Merci.
Mémoire de fille, c'est un livre édité chez Gallimard et je le recommande, comme on l'a bien compris, chaleureusement à tous nos auditeurs. Merci. Dans un instant, c'est le journal et la suite de la Grande Table.